Toujours un privilège très spécial pour moi d'être ici à l'église de Grasse. De toutes les églises que nous avons été, c'est l'église que nous considérons comme notre église mère qui nous a envoyés. Merci John de tout ce que tu as fait. Je peux vraiment dire que je me tiens sur tes épaules. Tu m'as soutenu pendant tellement longtemps. Et c'est vrai que, comme John l'a dit, si on veut aimer la vérité, quelque part, il faut haïr le mensonge. Aujourd'hui, c'est ma joie de pouvoir regarder un cas biblique pour le sécessionnisme. Et lorsque quelqu'un m'a dit que j'allais prêcher sur le sujet, on m'a demandé, tu veux dire de l'union? Alors peut-être les choses se sont empirées, c'est vrai que je viens du Texas, mais bon... J'ai pas entendu de rumeur à ce sujet encore. Ce matin, nous n'allons pas parler d'une question politique, mais d'une question biblique, la question du sécessionnisme. Ce nom qu'on nous a donné, a vraiment pas donné par quelqu'un qui avait du style. C'est vrai que c'est plutôt négatif. C'est comme si on commençait une équipe de foot aux Philippines qu'on l'appelait les dossiers de Manila. Il y a juste quelque chose de négatif avec ce titre. Mais le vrai problème, c'est pas seulement que le sécessionnisme, c'est un terme négatif, mais ça a été caricaturé comme une croyance que l'esprit a arrêté son travail. En conséquence, on a été accusé injustement de mettre l'esprit dans une boîte et d'embraser une philosophie qui était non biblique, basée sur l'âge de l'illumination. Non seulement on croit fortement que le Saint-Esprit a continué son travail, mais il continue à être démontré au travers de nous la puissance de Christ ressuscité. Il y a rien éternel qui arrive dans l'Église ou dans les individus du chrétien sans l'œuvre du Saint-Esprit. Vous et moi pouvons accomplir des choses temporelles, mais il n'y a rien que nous puissions faire qui est éternel sans le Saint-Esprit. Que ce soit dans la vie de l'Église ou dans les chrétiens. C'est une représentation malmenée de ce que nous croyons lorsque disons que nous croyons dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme si nous croyons en la Bible plus que dans la Trinité. C'est faux de nous appeler les déistes bibliques. Lorsqu'on s'appelle cessationniste, c'est simplement parce que nous pensons que les dons miraculeux, comme le parler en langue, les prophéties et les guérisons en tant que dons, ont cessé. De l'autre côté, les continualistes croient que les dons miraculeux ont continué sans corruption, sans changement depuis l'âge de l'Église, ou d'autres disent ils ont diminué pendant un temps, mais ils sont maintenant restaurés. Il y a trois donc branches dans le mouvement charismatique, les pentecôtistes, les charismatiques et la troisième vague, et tous sont continualistes. Et souvent utilisent le même argument dans leurs écrits et dans leurs sermons pour défendre leur argument. Un des principaux arguments que vous allez entendre probablement la plupart du temps, c'est que le premier argument, c'est que le Nouveau Testament ne dit pas que les dons miraculeux devraient cesser pendant l'âge de l'Église. Cet argument peut être utilisé des deux côtés, parce que le Nouveau Testament ne dit pas que ces dons continuent non plus. Mais bien sûr, ils ont un deuxième argument. Il y a quelques passages dans le Nouveau Testament qui impliquent que les dons miraculeux continuent jusqu'au retour de Christ. Et leur exemple préféré, c'est 1 Corinthiens 13, 10, si lorsque ce qui est parfait arrive, ce qui est en partie disparaîtra. Ils argumentent que seulement lorsque Christ reviendra, alors ce qui est partiel qui implique les parler en langue, la prophétie cessera. Mais comme vous savez, ce passage est disputé. Et il y a plusieurs interprétations possibles pour ce passage et ce passage peut être utilisé vraiment pour les deux côtés du débat. Et comme le passage a élevé beaucoup de questions, on ne peut pas l'utiliser pour défendre ou argumenter leur côté. Mais le troisième argument pour la continuation des dons miraculés, c'est que le Nouveau Testament parle seulement de l'âge de l'Église. Et ainsi, les dons qui ont commencé dans cet âge doivent continuer pendant cet âge. Ils disent qu'on divise artificiellement l'Église et son âge avec un âge apostolique et post-apostolique. Mais s'ils croient qu'il y a des apôtres qui sont du même degré que Pierre et Paul, alors eux aussi divisent l'âge de l'Église et doivent reléguer les apôtres à l'époque apostolique. Et donc, ils deviennent de facto cessationnistes en partie. Et un autre argument qui est très commun, c'est qu'il y a 500 millions de chrétiens qui disent avoir des expériences charismatiques ne peuvent être erronés. Mais utiliser ce même argument, on pourrait accepter tous les miracles de l'Église catholique en même temps, parce qu'il y en a des milliards. Et des millions et des milliards qui professent, qui revendiquent les mêmes miracles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des millions, 500 millions, 1 billion, ne peuvent être erronés. Ceux-ci sont les arguments les plus communs sur ce sujet. Mais j'aimerais donner des arguments pour le cas du cessationnisme. Et encore, on va le définir. Ce que ça ne veut pas dire, comme les critiques souvent nous le donnent, ça ne veut pas dire que Dieu a arrêté de faire des choses miraculeuses. En tant que pasteur, je vois le miraculeux très souvent. Chaque fois qu'un homme pécheur spirituellement mort est sauvé, c'est une œuvre souveraine de Dieu qui est un miracle de sa grâce. Et l'apôtre Paul dit que le seul moyen pour un pécheur aveugle de voir la lumière, c'est lorsque le Dieu de lumière dit que la lumière soit. Et chaque fois que quelqu'un est guéri, seulement en réponse aux prières, en contradiction avec l'évidence médicale, encore une fois, c'est une intervention de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne fait pas de miracles. Le cessationnisme ne dit pas que Dieu ne fait pas de miracles. Ça ne dit pas que le Saint-Esprit n'accomplit pas de miracles, mais qu'il ne donne pas une habilité ou un don miraculeux à quelqu'un en particulier. Il peut utiliser quelqu'un, il peut utiliser des personnes à des moments donnés, mais il ne donne pas de don comme celui de l'apprentissage d'une langue qui n'est pas connue et qui arrive tout à coup. Alors, ce qu'on croit avec le cessationnisme, c'est que Dieu donne les habilités, les dons bibliques qui étaient présents au premier siècle, mais sans compter les dons miraculeux. Les dons miraculeux qui avaient été donnés aux apôtres ont cessé suite à l'existence des apôtres. Et pourquoi alors, on se demande, pourquoi est-ce qu'on croit que ces dons miraculeux du Saint-Esprit auraient cessé si on croit que les autres fonctions du Saint-Esprit continuent? Et la plupart des cessationnistes vous diraient, il faut aller dans la Bible en 1 Corinthiens 13. mais ce n'est pas vraiment la base de notre argument non plus. Et ce matin, j'aimerais vous donner 7 arguments pour le cessationnisme biblique. Et vraiment, chaque argument mérite un message en lui-même, ou même une série de messages. Et vous pouvez demander aux gens de mon église, lorsque j'ai commencé la série sur le message, sur le sermon sur la montagne, les gens qui commençaient le lycée faisaient des paris pour savoir qui finirait le lycée lorsque je finirais ma série. Mais ce que je veux dire ce matin, c'est vous donner une vue d'ensemble à 10 000 mètres de haut pour avoir une certaine compréhension du passage. Et le premier argument, c'est le rôle unique des miracles, le premier argument. La plupart des évangéliques, même les charismatiques, disent que les miracles se trouvent sur presque toutes les pages de l'Écriture. Mais lorsqu'on regarde la Bible, il y a vraiment seulement 3 périodes où Dieu accomplit de nombreux miracles. Et c'est avec des personnes vraiment particulières et uniques. Premièrement, c'était l'époque de Moïse et de Josué. Ça a duré depuis l'Exode en 1445 avant Jésus-Christ jusqu'à la carrière de Josué qui a fini environ en 1380 avant Jésus-Christ. Il y avait une période de miracles qui a duré à peu près 65 ans. La deuxième fenêtre de miracles qu'on voit de manière commune à une époque, c'était dans le ministère d'Élie et d'Élisée, qui eurent un ministère environ entre 860 avant Jésus-Christ jusqu'à 795 avant Jésus-Christ. Encore une fois, une période de seulement 65 années. Et la troisième année, c'était un temps, au temps de Christ et ses apôtres, qui a commencé avec le ministère de Christ et qui a fini avec la mort de Jean, qui a duré à peu près 70 ans. Et au travers de l'histoire, Dieu a intervenu à des moments précis avec des miracles directs, mais dans des milliers d'années d'histoire humaine, il y a seulement 200 ans dans lesquels Dieu habilitait des gens pour faire des miracles. Et même à ce moment-là, ces miracles n'étaient pas tous les jours. Pourquoi? Parce que le but primaire du miracle était de confirmer les crédentiels ou de messager élu de Dieu. Pour affirmer et confirmer un messager de Dieu. Pour confirmer un messager dans la bouche duquel Dieu avait mis sa parole. Et on voit ça avec le premier faiseur de miracles, Moïse. Et on voit ça en Exode chapitre 6. On regarde verset 28. Et Moïse raconte ce qui s'est passé lorsque Dieu l'a appelé. Lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse: « Je suis l'Éternel, dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je dis. » Et Moïse répondit en présence de l'Éternel: « Voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il ? » L'Éternel dit à Moïse: « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon. » Vous voyez ce qui se passe là? Dieu dit: tu ne crois pas que je peux donner cette puissance, que je peux accomplir au travers de toi? Alors je vais te donner à Aaron. Tu seras comme Dieu pour Aaron. Il sera pour toi un prophète. Tu lui donnes tes paroles à lui, tes paroles dans lui. Et moi, je te donne mes paroles et il parlera à Pharaon. Et puis on revient au verset 4. Chapitre 4, pardon, au verset 15. tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Donc Aaron devait être le prophète. Moïse devait mettre les paroles dans la bouche d'Aaron. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Et vous voyez dans ces passages que pour Aaron d'être le prophète de Moïse, il pouvait pas parler en lui-même. Il devait parler les paroles de Moïse qui étaient à la place de Dieu par rapport à lui. Et c'est ce que ça voulait dire d'être un prophète. La vraie parole de Dieu qui était placée dans la bouche de quelqu'un. Et ce que Jésus a dit, Dieu a dit à Jérémie, en chapitre 1, verset 9, « J'ai mis ma parole dans ta bouche. » Mais comment les personnes pourraient-ils savoir que quelqu'un qui réclame être un prophète de Dieu est réellement en train de parler les paroles de Dieu? Et Moïse, le premier prophète, fit face à ce dilemme. Et il amène ça à Dieu au chapitre 4, au début, au verset 1. Moïse répondit, voici, ils ne me croiront pas. Ils n'écouteront point ma voix. Ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Comment est-ce que je sais? Et ils me diront, comment pouvons-nous savoir que tu es le prophète de Dieu? Et l'Éternel lui répondit, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Et on sait comment l'histoire se déroule. Il jette la verge sur le sol et la verge devient un serpent. Et puis Moïse prend la verge par la queue du serpent qui redevient la verge. Et il dit au verset 5, c'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël et le Dieu de Jacob. Et puis, il refait ça encore une fois avec deux miracles supplémentaires. Mais comprenez que Dieu habilita Moïse à faire des miracles pour un seul but, et c'était de valider Moïse en tant que prophète de Dieu et le message de Moïse en tant que parole véridique de Dieu. Moïse fut accepté comme prophète de Dieu en conséquence. Et ce qu'il écrit devint la parole de Dieu et accepté comme parole littérale de Dieu. Et pourquoi? À cause de la puissance validée par les miracles. Et ça continue, et ça a continué au travers de l'Ancien Testament d'être la raison pour les prophètes et pour les miracles. Et alors qu'on considère les prophètes, on voit que Dieu, en même temps, voulait élever d'autres prophètes pour parler en son nom. Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Bien sûr, on comprend le grand prophète et qui accomplit toutes les prophéties, c'est Jésus-Christ, le Messie. Mais c'est aussi clair que Moïse décrivait une institution de prophète qui était déjà active en son temps et qui continuerait. Et ainsi, en Deutéronome, Moïse donne trois critères pour discerner un vrai prophète d'un faux prophète. Au verset 21-22, on voit le vrai prophète, ses prédictions doivent toujours se réaliser. Ça, c'est le premier critère. C'est comme ça qu'on peut savoir si les prédictions du prophète sont vraiment s'accomplissent, c'est comme ça qu'on sait que c'est vraiment la parole de Dieu. Et en Deutéronome 13, 1 à 5, Dieu dit que s'il authentifie un vrai prophète, c'est aussi en l'habilitant de faire des miracles. Et en Deutéronome 13, Dieu dit aussi que même si un prophète fait des miracles, il y a encore un autre critère qui doit être utilisé, et c'est que le message est aussi en accord avec la doctrine biblique. Donc Moïse, en tant que prophète, avait été donné de faire des miracles pour authentifier le message de Dieu Et ce fut la même chose avec les autres prophètes qui suivirent. Dans l'Ancien Testament, seulement les prophètes, seulement ceux qui parlaient avec autorité pour Dieu, étaient ceux faisant des miracles. Parce que les miracles, c'est une validation. Un des miracles le plus connu en dehors de la Pentateuque, des livres de Moïse, c'est au travers du ministère d'Élie, lorsque Élie appelle au feu pour descendre du ciel sur l'autel. On voit un roi 18:36, Élie le prophète s'approche et dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, aujourd'hui qu'il soit connu que le Dieu, que tu es le Dieu d'Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. » Et c'était Élie qui disait simplement « Dieu, authentifie ce que je fais. » Et dans le Nouveau Testament, on voit la même chose. Et on voit l'accomplissement ultime du prophète que Moïse avait promis en Deutéronome 18, et c'est Jésus. Et c'était Jésus avec le plus grand prophète, avec les plus grandes revendications. Et ainsi, c'est normal qu'il devait accomplir plus de miracles que n'importe qui. Mais comme Moïse et les prophètes de l'Ancien Testament, le but primaire et primordial de Jésus et de ses miracles, c'était de confirmer et de valider son office d'apôtre et de messager de Jésus-Christ, de Dieu. Et Jean fait de cela un point central de son évangile, comme on voit en Jean 5, verset 36. Et Jésus dit, « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoigne de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Regardez à ce que je fais. Regardez à les guérisons, aux miracles. Ces choses authentifient que Dieu m'a approuvé comme le Messie. » Chapitre 6, verset 14. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, c'est le miracle de la multiplication des pains pour les 5000. Leur conclusion est « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et au chapitre 7, on continue, verset 31. Plusieurs parmi la foule crurent en lui et ils disaient « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en fait celui-là, vraiment ?» Chapitre 10, verset 24. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendrait-nous notre esprit en suspens si tu es le Christ ? Dis-nous-le franchement. » Et Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, vous ne croyez pas les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père, rend témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Et verset 37 du même chapitre, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je l'ai fait, même si vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Vous voyez, les miracles de Jésus n'étaient pas primordialement un outil pour l'évangélisation. Non, les miracles ne sont pas. Même on connaît cette citation de la Bible, même si un de tes frères ressuscitait des morts, il ne l'écouterait pas. Ils ont Moïse et les prophètes. Même si on voit le cœur de compassion de Christ dans ses miracles, la raison, ce n'est pas pour simplement aider les gens physiquement, mais c'était pour confirmer le fait qu'il parlait, qu'il était le messager de l'évangile de Dieu. Le jour de Pentecôte, Pierre répète ce que le but des miracles était, on voit ça en acte 2, verset 22. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. C'était la raison de ces miracles. Non seulement Jésus faisait des miracles, mais il avait aussi, il a aussi donné cette même puissance aux apôtres, et leurs miracles eurent aussi le même but. On voit ça en Actes chapitre 14, verset 3. Ainsi, Paul et Barnabas restèrent longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. En Hébreux chapitre 2, versets 3 et 4, c'est la même chose. Il dit « Le message du salut a été confirmé par nous, par ceux qui ont entendu, donc les apôtres, mais Dieu a aussi authentifié avec eux par des signes et des prodiges et par les dons du Saint-Esprit selon sa volonté. » Les dons miraculeux qui ont accompagné les apôtres avaient pour but de confirmer le fait que leurs paroles étaient aussi de Dieu, juste comme c'était le cas pour Moïse, juste comme c'était le cas pour Élie et Élisée, et même pour Jésus. Maintenant, pensez à cela. C'est un voyage très bref et court qui ne résout pas toute la question. Mais on voit quelque chose de consistant au travers de toutes les Écritures. Et donc, c'est raisonnable à s'attendre qu'après la mort des apôtres et la fin de la révélation donnée dans la parole, que la capacité humaine de faire des miracles devrait aussi s'arrêter, comme cette capacité s'arrêta après Moïse et Josué et Élisée pendant des centaines d'années. B.B. Warfield a écrit « Les miracles n'apparaissent pas sur chaque page des Écritures, ils apparaissent ça et là, sans vraiment une raison distinguée. Elles appartiennent à des périodes de révélation lorsque Dieu parle à son peuple au travers de messagers validés déclarant ses buts de grâce. » Et la manifestation abondante dans l'âge de l'Église apostolique est aussi marquée par la richesse de la révélation. Et lorsque cette révélation, la période de révélation se termina, la période des miracles passa aussi. Le premier argument qu'on avait ainsi, c'est que les dons miraculeux s'arrêtent parce que les miracles avaient un rôle unique pour valider un message. Le deuxième argument à cette question est la fin du don de l'apostolat. La fin du don de l'apostolat. On voit ça dans le Nouveau Testament. Paul réfère aux apôtres comme un des dons que Christ a donné à son Église. Et on voit ça premièrement en 1 Corinthiens 12. Lors de cette section qui parle des dons spirituels, chapitre 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner et de parler diverses langues. Et Paul illustre qu'il y a une variété de dons dans le corps, juste comme un corps a une variété, une diversité de membres. Il inclut dans cette liste les apôtres. Même si tous les dons spirituels ne sont pas des offices, on voit en chapitre 4 que l'Église doit fonctionner selon certains offices. En Éphésiens 4, verset 7, on lit « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure de Christ. » C'est pourquoi il est dit, « Étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Verset 11, il en a nommé certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. Et un des dons qui est donné, mais qui est aussi un office, c'était l'apostolat. Mais c'était un don temporel. La plupart des chrétiens et la plupart des évangéliques charismatiques sont d'accord qu'il n'y a pas d'apôtre comme Paul et les autres apôtres. Parce que pour être un vrai apôtre, il y avait trois qualifications qui étaient nécessaires. On devait être un témoin du Christ ressuscité. On voit ça en Actes chapitre 1. Après le suicide de Judas, ils essaient de trouver un autre apôtre. Chapitre 1, verse 22, ils disent « Après le baptême de Jean, jusqu'à ce jour, un de nous doit devenir un témoin de sa résurrection. » Un témoin de la vie de Christ et de sa résurrection. Et deuxièmement, pour être un apôtre, on devait être élu personnellement par Christ. En Actes 1, verset 2, les apôtres sont ceux qu'ils ont élus. Et même à la fin du chapitre 1, lorsqu'ils essaient de remplacer Judas dans leur prière, ils disent à Dieu, « Montre-nous lequel tu as choisi parmi ces deux. » Et troisièmement, pour être un miracle, pour être un apôtre, il devait faire des miracles. En Matthieu 10, verset 1 et 2, Jésus appela les 12 disciples et leur donna autorité sur les esprits impurs pour les chasser, pour donner des guérisons. Pas des douleurs de bas dos. Et ceci étaient les 12 apôtres. Verset 2. Et de Corinthiens 12, verset 12, les signes d'un vrai apôtre ont été performés, ont été montrés au milieu de vous par la persévérance et des signes et des merveilles et des miracles. Pour être un apôtre, des miracles devaient avoir lieu. Et lorsqu'on regarde à ces qualifications, on sait qu'il n'y a aucun membre chrétien ou dans l'église qui peut se qualifier. Et ce qui veut dire, c'est qu'il y a une grande différence entre l'œuvre de l'esprit du temps des apôtres et de nos jours, parce que un des dons les plus miraculeux de l'esprit, celui du don des apôtres, a disparu avec les apôtres. C'est aussi étrange que le don des apôtres a cessé sans même que la Bible ne le mentionne. Mais lorsqu'on est d'accord qu'il n'y a pas d'apôtres du même niveau que Pierre et Paul, on admet qu'il y a eu un grand changement dans les dons de l'esprit entre l'âge apostolique et l'âge suivant les apôtres. Et l'un des dons qui relie le plus avec le don des miracles, celui des apôtres, a cessé. Et le troisième argument, c'est la nature fondatrice des apôtres du Nouveau Testament et prophètes. La nature fondatrice des prophètes et des apôtres du Nouveau Testament. Et c'est ce que le Nouveau Testament identifie les apôtres et les prophètes en tant que fondation. On voit ça en Éphésiens chapitre 2, verset 20. Une des grandes joies de ma vie a été de passer 3 ans avec mon assemblée dans le livre d'Éphésiens. Et dans ce livre, Paul explique clairement l'identité de l'Église, que la paix a été faite entre les païens et les juifs et tous les groupes différents, les distinctions qui sont unies en Christ. Et puis à la fin de ce beau chapitre, il peint l'Église avec trois images. Verset 19 du chapitre 2 dit « Nous sommes des citoyens de la maison de Dieu ». Sommes membres de la famille de Dieu. Et puis, verset 20, troisième image, nous avons été bâtis sur la fondation des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Il dit non seulement vous êtes citoyen du royaume des cieux, non seulement vous êtes membre de la famille de Dieu, mais en plus vous êtes des pierres individuelles placées très très minutieusement par Dieu dans une structure qui est le temple de Dieu, dans lequel Dieu doit être adoré. Mais regardez comment il décrit cette structure au verset 20. L'Église ayant été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et on connaît la référence aux apôtres est très claire, indiscutable. Mais qui sont ces prophètes? Il y a des charismatiques qu'ils ont utilisés, qu'ils ont essayé d'avoir beaucoup d'arguments pour expliquer qui sont ces prophètes. Certains disent que cette fondation a été faite, a été bâtie par les apôtres et les prophètes de l'Ancien Testament, alors que le contexte lui montre que c'est surtout, dans le contexte, on voit que ce sont des prophètes du Nouveau Testament. Et lorsqu'on parle de ce mystère, donc de l'Église, c'est un mystère qui n'avait pas été révélé comme il a été révélé maintenant à travers de ces saints apôtres et prophètes. Mais on parle de prophètes du Nouveau Testament. D'autres charismatiques prennent ce passage, Éphésiens 2:20, et leur changent la phrase, disant qu'ils ont été édifiés sur le fondement des apôtres, qui sont les prophètes, en disant que les prophètes et les apôtres sont les mêmes. Et il y a des raisons linguistiques pour rejeter cette interprétation, et des raisons dans le contexte de même. Mais on voit dans ce passage, les apôtres et les prophètes sont deux groupes différents. Chapitre 4, verset 11, il a donné certains comme apôtres et d'autres comme prophètes. En Éphésiens 2, 20, on voit que la révélation qui a été donnée au travers des apôtres, au travers des prophètes du Nouveau Testament, c'est la fondation de l'Église. Et l'Église est bâtie sur cette fondation, est édifiée sur cette fondation. L'image de la fondation, on en a parlé. La fondation a déjà été bâtie. Une fondation, on la pose une fois pour toutes. Et maintenant, l'édifice est érigé sur cette fondation qui est complète. Et c'est la même image que Paul utilise dans 1 Corinthiens 3 lorsqu'il parle des leaders de l'Église de Corinthe, que lorsqu'il bâtissent l'Église et ils continuent l'œuvre qui avait commencé et qui a œuvré pendant des centaines d'années et que la fondation a déjà été mise en place par les apôtres. Lorsque la révélation fut donnée aux apôtres et fut complète, leur rôle en tant qu'apôtre fut complet de même. Et on le voit, c'est vrai des apôtres. Il n'existe plus. Et maintenant, en Éphésiens chapitre 2, Paul dit que le rôle des prophètes est aussi fondateur et complet de même. Nous ne devrions pas nous attendre à avoir plus de prophètes ou plus d'apôtres ou plus de révélations. Un quatrième argument pour le cessationnisme, c'est la nature des dons miraculeux. C'est la nature des dons miraculeux du Nouveau Testament. Si l'Esprit donnait toujours le don des dons miraculeux, alors ça devrait être les mêmes dons que nous avons vus au Nouveau Testament. Cependant, les dons charismatiques prétendus n'ont vraiment aucune ressemblance avec les dons du premier siècle, comme par exemple le don des langues. Selon Luc et le don des actes, le don du Nouveau Testament, c'était la capacité, comme on l'a vu à Pentecôte, de parler dans une langue connue, humaine. En Actes 2, versets 7 et 8, ils étaient étonnés, disant « Pourquoi tous ces gens, comment comprenons-nous ces gens dans notre propre langue ?» Et on voit la deuxième occurrence des dons en Actes 11, verset 15, lorsque Paul écrit le don d'élan qui avait été donné à Corneille et à sa maison, en Actes 11, verset 15. Lorsque je me mis à parler, le Saint-Esprit descendu sur eux, comme sur nous au commencement. C'est la même chose. Pierre dit, c'est la même chose que ce qui nous est arrivé, ce qui s'est passé avec la maison de Corneille, c'est la même chose qui s'est passé à Pentecôte. Et lorsque Luc parle du troisième épisode, en Actes 19, il n'y a rien dans le contexte qui indique que ce qui se passait était différent de Actes 2 ou de Actes 11 et 10. Et réfléchissez à ce que Luc savait. Lorsque Luc écrit le livre des Actes, il connaissait exactement tout ce que Paul avait écrit il y a 6 ou 7 ans en 1 Corinthiens 14. Il connaissait ce qui se passait à Corinthe et pourtant, il définissait toujours le parler en langue comme des langues que nous puissions entendre dans des dialectes connus et rien d'extatique et de mystérieux. Mais on compare ça avec les langues contemporaines qui ne sont pas le parler en langue qui n'est pas basé sur des langues parlées des hommes, mais et au départ le don des langues c'était pour l'édification, alors que maintenant c'est usé comme un moyen de prière privé et ça n'a rien en commun avec le don du Nouveau Testament, sauf le mot langue. Ou même le don de prophétie. Le don de prophétie dans sa manifestation d'aujourd'hui est très très différente. Contrairement à la doctrine charismatique, on ne voit nulle part dans le Nouveau Testament une distinction entre les prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Au contraire, les prophéties de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament sont mises au même niveau. Lorsqu'on regarde au livre des Actes, et lorsqu'on regarde au mot prophète ou prophétie, on voit que les prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, il n'y a vraiment aucune différence entre les deux. Ça veut dire que juste comme les prophètes de l'Ancien Testament parlaient une révélation directe et infaillible de Dieu, ainsi les prophètes du Nouveau Testament le faisaient. Et ainsi, juste comme les prophètes de l'Ancien Testament, leurs paroles devaient être évaluées. Et leurs prophéties furent ajoutées aux enseignements des apôtres pour donner cette fondation. Mais un des passages qui est utilisé par les charismatiques pour montrer qu'il y a une différence entre les prophètes de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, en Actes 21, lorsque le prophète Agabus dit voici ce que l'Esprit dit. Mais encore une fois, c'est un message direct de Dieu et ce n'est pas ce qui est appelé prophétie dans le mouvement charismatique du XXIe siècle. Et Wayne Grudem, qui décrit le niveau, le milieu, le don de prophète des charismatiques, argumente que lorsque le don de prophétie est utilisé, il ne devrait jamais être introduit par la phrase « Ainsi parle le Seigneur ». Mais plutôt, je pense que c'est ce que l'Esprit dit. Mais ça, ce n'est pas le don de prophétie du Nouveau Testament. Un autre exemple, le don de guérison. Dans le Nouveau Testament, lorsque quelqu'un avait le don de guérison, le résultat était complet, immédiat, permanent et sans question. Peu importe la maladie, mais les guérisons qu'on voit aujourd'hui n'ont rien à voir avec ces genres de guérisons. Ce sont des guérisons qui sont temporelles au mieux, qui ne sont pas vérifiables. Et donc, les guérisons ne sont pas les mêmes, le don n'est pas le même. Et les charismatiques sont d'accord sur la question de la prophétie. Wayne Grudem écrit, il n'y a pas de charismatique responsable qui croit que le don des prophéties est infaillible et que c'est une révélation inhérente de Dieu. Et il continue à dire, il y a un témoignage uniforme dans toutes les sections du charismatique, le don de prophétie aujourd'hui est impur et contient des éléments qui ne doivent pas être obéis ou dignes de confiance. Alors, oui, on apprécie ces mots de notre frère, mais si ça c'est le standard, si cela aurait eu lieu dans l'Ancien Testament, ces prophètes auraient été tués. Un théologien charismatique, Jacques Dyer, admet dans son livre que les prophètes ou les apôtres de nos jours ne peuvent pas revendiquer avoir la même puissance ou la même autorité que les apôtres du 1er siècle. Et revendiquent des miracles de résurrection ou du niveau des apôtres, mais qui sont presque toujours sans vérification et souvent même qui sont faux. Mais de toute façon, lorsqu'on regarde à ces dons, ce ne sont pas les dons du Nouveau Testament. Et quatrièmement, un argument pour le cessationnisme, c'est le témoignage de l'histoire de l'Église. Alors, on commence avec l'histoire du Nouveau Testament, ou la pratique des dons miraculeux qui a un déclin même pendant la période des apôtres. Pentecôte et les événements d'Actes chapitre 2 arrivent seulement 10 jours après l'ascension du Seigneur. Et la mention du parler en langue en Actes 10, on parle 14 ans plus tard. Et la troisième mention en Actes 19 occurre lors du ministère de Paul à Éphèse, qui est arrivé dans les années 50 après Jésus-Christ. Mais en 1 Corinthiens, une fois de plus, lorsqu'on parle du parler en langue en dehors des Actes, on est dans les années 55-56. Lorsqu'on regarde à ces lettres, 1 Corinthiens était une des premières lettres, la quatrième lettre inspirée de Paul, suivant Galates, et les lettres de Thessaloniciens. Il écrirait 9 lettres supplémentaires. Et dans toutes ces lettres, il n'y a plus de mention du don des langues. Dans les épîtres pastorales, 1 de Timothée et Tite, les livres écrits à la fin de la vie de Paul, lorsque Paul donne des directions pour l'Église, pour le long terme, il n'y a aucune mention des dons miraculeux. Et on voit ça qui arrive vraiment à son apogée, à son point fort en Hébreux, chapitre 1, verset 1. Dieu, après autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps, une expression que les Juifs avaient pour le temps du Messie, il a parlé par le Fils. Les dernières paroles de Dieu, c'était son Fils. Et ceux qui étaient avec lui, les disciples, les apôtres. Et c'est pour cela que lorsqu'on regarde le chapitre 2, ça dit c'est pourquoi, au premier verset, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Alors, laissez-moi vous rappeler que ce livre des Hébreux fut écrit juste probablement avant la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70. Et c'est la manière avec laquelle l'auteur d'Hébreux parle des dons miraculeux. Donc, il parle à la première génération, celle du Seigneur, plusieurs reprises, plusieurs manières, ces derniers temps. Et puis, ce message fut confirmé par ceux qu'ils ont entendu. Donc, la deuxième génération, les apôtres. Mais l'auteur des Hébreux se qualifie comme une troisième génération. Et il parle, Dieu a témoigné avec eux par des signes et des miracles et par des dons et par le Saint-Esprit selon sa volonté. Et même l'auteur d'Hébreux, proche probablement de l'an 70, doit regarder en arrière pour faire référence aux dons miraculeux. Et dans le flot chronologique du Nouveau Testament, on voit que même avant la fin, la complétion du Nouveau Testament, les dons miraculeux avaient déjà commencé un déclin. Parce que le message était complet avec les apôtres. Et c'est ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Et lorsqu'on regarde l'histoire historique, suite aux apôtres, on voit avec les pères de l'Église la même chose, que les dons miraculés ont cessé. On voit ça avec John Chrysostome, par exemple, au IVe siècle. Il parle de 1 Corinthiens 12. « Cet endroit est obscur, mais cette obscurité est produite par notre ignorance des faits et qui réfère à leur cessation, car ces choses avaient lieu, mais n'ont plus lieu de nos jours. » Pareil avec Auguste, avec saint Augustin. Dans les premiers temps, le Saint-Esprit venait sur eux et leur permettait de parler en langue, des langues qu'ils n'avaient pas appris, et ces choses étaient accomplies pour un signe, et ces choses sont passées. Et puis on avance rapidement à Luther pour la réforme. Il disait ce don du Saint-Esprit était nécessaire pour l'établissement de l'Église primitive, et ces miracles de même étaient accompagnés par le don du Saint-Esprit. Mais une fois que l'Église fut établie, cette apparence visible du Saint-Esprit, c'est ça. Et Jean Calvin, la même chose, le don de guérison, comme le reste des miracles que le Seigneur a donné pendant un temps, a cessé pour laisser place à la prédication de l'Évangile. Et Jonathan Edwards, il dit, ces dons extraordinaires étaient donnés pour établir l'Église dans le monde, mais puisque le canon des Écritures a été complété, et que l'Église chrétienne a été fondée et établie, ces dons extraordinaires ont cessé. Spurgeon, la même chose. Ces dons miraculeux, primitifs, ne sont plus de nos jours. Bébé Warfield, la même chose. Ces dons étaient l'authentification des apôtres. C'était pour valider les apôtres comme agents autoritaires de Dieu dans la fondation de l'Église. Leur fonction est donc limitée à leur rôle de l'âge apostolique et ont maintenant cessé. Ces miracles qui ont travaillé étaient des signes révélant la puissance de Dieu et on ne doit pas s'attendre à ce que cela continue lorsque cette révélation est maintenant complète. Et bien sûr, vous pouvez trouver beaucoup plus de ces citations dans le livre que vous allez recevoir cette semaine. Et bien qu'il y a eu des miracles au travers de l'âge de l'Église, bien sûr, mais les dons miraculeux et révélatoires ont cessé avec les apôtres. Et comme Sinclair Ferguson l'a expliqué dans son livre, le continualisme ne montre aucune évidence du fait que ces dons ont disparu pendant une grande partie de l'âge de l'Église. Un sixième argument pour le cessationnisme, c'est la suffisance des Écritures. Et je veux juste le mentionner rapidement. Le canon des Écritures a été fini, a été conclu avec la fin des apôtres. Et la conclusion de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament qu'on lit, c'est que le résultat, c'est une révélation complète qui est suffisante, comme en 2 Timothée 3, versets 16 et 17, toute Écriture est inspirée de Dieu, est suffisante pour enseigner, pour corriger, pour que l'homme puisse être prêt pour toute bonne œuvre. Et il n'y a plus rien à ajouter. L'homme de Dieu n'a pas besoin de révélation à ajouter à la parole de Dieu. Tout est donné. Amen. Jésus n'appelle pas ou n'équipe pas son Église par un best-seller du XXIe siècle. Mais il continue de parler par son esprit, par le best-seller d'il y a 3-4 000 ans, la parole. En 1539, Luther, commentant en psaume 119, a dit « Dieu veut vous donner son esprit par la parole externe. » Ce n'est pas quelque chose interne à nous-mêmes, c'est une parole externe de Dieu que nous pouvons approcher et qui nous enrichit. Nous n'avons pas besoin de nous demander si ce message est vraiment de Dieu ou pas, en doutant, mais nous pouvons savoir avec conviction que c'est la parole. Et Luther a aussi écrit que l'homme qui veut écouter Dieu lise la parole sainte. Et mon dernier argument, mon septième argument pour le cessationnisme, c'est les lois du Nouveau Testament pour les dons miraculeux. Ou les règles. Et on voit ça en 1 Corinthiens 14. Et Paul donne des limites pour les dons miraculeux, comment ces dons doivent être pratiqués dans l'Église. Premièrement, versets 27 et 28, sur le don en langue, parlant en langue. Lorsque ce don devait être utilisé, il y avait des règles à suivre. Verset 27, c'était de parler en langue dans un service donné. Seulement deux ou trois devaient parler. Deuxièmement, ils devaient parler un à la fois. Chacun à son tour, il y avait un ordre, il y avait une structure, parce que c'est notre Dieu qui est un Dieu d'ordre. Et troisièmement, il devait y avoir quelqu'un pour interpréter. Verset 27 et 28, quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Personne ne pouvait parler en langue dans l'Église, seulement s'il y avait un interprète qui pouvait donner un sens à cette parole. Pourquoi? Parce que sinon, on ne pouvait pas savoir s'il disait la vérité ou pas. Et c'est par la parole de deux ou trois témoins qu'une chose est établie. Puis quatrièmement, les femmes n'était pas permis de parler en langue dans l'assemblée lors de l'adoration. On voit ça au verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées car il n'est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Et dans ce passage, verset 29 à 34, Paul donne une direction pour le don de prophétie. Règle numéro 1. Qu'il n'y ait seulement deux ou trois personnes qui parlent. Deuxièmement, que les autres prophètes et l'Assemblée devaient évaluer ces prophètes par rapport à la révélation qui avait déjà été donnée. Et les autres devaient les juger. Et la même chose, ils devaient parler un à la fois. Et puis quatrièmement, les femmes n'étaient pas permises de prophétiser dans l'assemblée. Regardez ces versets vous-même. Regardez à ses limites. Mais la manière dont ces dons sont pratiqués dans le mouvement charismatique, il n'y a aucun respect pour ces règles établies par Paul. Et ce n'est pas simplement en matière des dons eux-mêmes, mais même la manière dont ils sont utilisés. On voit que c'est une rébellion contre la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu est désobéie, on ne peut pas obéir, on ne peut pas plaire au Saint-Esprit. Et en conséquence, ça ne peut pas être l'œuvre de l'Esprit qui fait désobéir à la parole. C'est une rébellion claire contre la parole et contre Dieu. Je vous ai donné 7 arguments bibliques pour le cessationnisme. J'aimerais vous expliquer, si vous êtes cessationniste, voici quelque chose qu'on peut réfléchir pour nous-mêmes. Si vous êtes un cessationniste, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ne cachez pas l'œuvre du Saint-Esprit. N'abaissez pas son rôle. Deuxièmement, gardez votre confiance dans la suffisance de la parole. Un jour, ou bientôt, ou même aujourd'hui, nous sommes déjà une minorité, mais nous restons dans la voie historique et de la position de l'Église. Connaissez ce que vous croyez et rejetez les formes de révélation continualiste. Et les gens qui disent « Dieu m'a dit », ou de penser qu'on peut avoir des émotions, des sentiments de Dieu qui nous dirigent, alors qu'il y a une parole externe de Dieu à nous qui nous dirige. Et n'approuvez pas ce que les charismatiques font par un mysticisme personnel. Et finalement, répondez avec sagesse au continualisme, parce qu'il y a beaucoup de différentes sortes. Pour les faux docteurs qui ne croient pas dans l'évangile comme nous le connaissons et qui ne peuvent pas confesser le nom de Christ, nous ne devons pas être effrayés de leur dire que, comme Jésus l'a dit, lorsque vous faites un prosélyte de lui, vous le tournez, vous le changez en tant qu'enfant de l'enfer deux fois pire. De dire comme Paul qu'il soit anathème. Et les autres charismatiques, la majorité qui ont embrasé l'évangile de la prospérité, montrez-leur le vrai évangile. Aidez-les à examiner leur foi pour voir s'ils sont vraiment sauvés ou s'ils ont été trompés. S'ils suivent Jésus seulement pour avoir leur problème résolu ou s'ils sont des vrais adorateurs. Pour ceux qui ne sont pas convaincus ce matin, je vous appelle simplement à faire très attention. Faites attention. Bien sûr, vous voulez traiter ceux qui sont croyants comme des frères, mais en même temps, il faut défendre la vérité avec amour. Si vous m'écoutez, vous n'êtes pas convaincu, j'aimerais vous mettre au défi. Par amour pour la paix, ne soyez pas tolérant au point de ne pas avoir de conviction. N'embrasez pas cette vue d'être ouvert avec caution ou vraiment vous donner une acceptance, vous acceptez ce qui se passe. Mais soyez comme les gens de Béret qui recherchaient les Écritures pour voir quelle est la vérité. Et je vais finir avec Martin Luther. Si je professe avec la voix la plus forte, l'exposition la plus claire, toutes les portions de l'Écriture, sauf précisément cette petite partie dans laquelle le monde et Satan attaquent, alors je ne confesse pas Christ, peu importe à quel point je peux être courageux. Lorsque la bataille rage, c'est là où l'armure du soldat est éprouvée. Et de se tenir debout dans les autres champs de bataille et de ne pas se tenir debout dans ce champ de bataille, c'est d'être un trouillard. Père Céleste, on te prie, prends ces choses, mets-les dans nos cœurs. Aide-nous, Père Céleste. On te remercie que tu nous as donné ta parole, que tu nous as donné la parole extérieure sur laquelle nous pouvons bâtir nos vies, que nous connaissons que tu as bâti. Nous ne sommes pas sujets au vent du mysticisme et des impressions, mais nous te louons, Père Céleste, nous te bénissons, aide-nous à être fidèles. Jusqu'à ton retour, nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.
We trust you're encouraged by what you've just heard. You've been listening to Grace to You. For more information about Grace to You, visit www.gty.org. That's gty.org. Or call 1-800-55-GRACE. Thanks again for your interest in Grace to You, where each day we're unleashing God's truth, one verse at a time.